Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Ça y est, le printemps arrive, le soleil aussi, on est content. Ça va nous donner de l'énergie et le sourire. Le chant des oiseaux va nous accompagner dès le lever du soleil, de quoi bien démarrer la journée en ce premier jour de printemps. Et oui, c'est le 20 cette année, le printemps, pas le 21.
Et oui, c'était hier, nous sommes bien le 21. Première vraie journée de printemps, le soleil. Soyons heureux, fêtons le printemps, ça fera du bien à tout le monde. Et l'un des symboles du printemps...
Tu avec... connais la chanson « Yael, le printemps qui se réveille ».
Il n'y a pas une chanson de
Michel Fugain.
Le printemps est arrivé sur ta maison.
Pardon, je t'ai coupé dans ton élan.
Oui, ça frappe du bien à tout le monde. Et l'un des symboles du printemps, avec les fleurs et les vertes prairies, bien sûr, c'est à mon sens les oiseaux. On ne leur rend d'ailleurs pas très bien, puisque lorsque les noms d'oiseaux fusent, souvent, c'est très rarement valorisant. Par exemple, Jacqueline, avoir une tête de linotte.
tu me vises.
Chacun prendra pour soi ou pas. Avoir une tête de linotte, une cervelle de moineau ou un cuit de poule, bien sûr.
Merci, Ludo.
Être un pigeon, une bécasse, regueule les mouettes, je dirais aussi. Glousser comme une dinde. Mais on a aussi quelque chose un peu plus sympathique, comme petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Tu as remarqué que c'était que des noms féminins, comme par hasard.
Ah, peut-être que c'est des expressions inventées pendant une période où le machisme était plus en vogue.
Tu vois, c'est très révélateur. J'en ai d'autres qui aiment bien, châtient bien. Nous les aimons, nos oiseaux, certains plus que d'autres, c'est sûr. Mais ces expressions, Ludo, sont-elles le signe que les oiseaux ont peu de capacités intellectuelles, par exemple?
Pas vraiment, en fait. Le cerveau de ces êtres à plumes a beau être bien plus petit que le nôtre, il est capable de véritables prouesses. Chaque espèce d'oiseau a développé des capacités cognitives qui lui sont propres. On pourrait décrire ce qui est arrivé au cerveau des oiseaux, par exemple, en comparant avec l'informatique des années 80-90. On avait de gros ordinateurs avec une puissance de calcul finalement pas extraordinaire. Et maintenant, on a des smartphones tout petits capables de faire des choses beaucoup plus performantes. Il y a eu une miniaturisation en fait de leurs neurones, ce qui fait qu'ils ont un nombre de connexions et un nombre de neurones important. Certains sont capables de reconnaître par exemple des visages, c'est le cas des pigeons. Certains oiseaux migrateurs sont capables de s'orienter en utilisant la position des étoiles et du soleil. Certains sont même capables de voir les ondes magnétiques. Les corbeaux, eux, savent confectionner et utiliser des outils mieux que certains singes. Les poules, que vous avez peut-être chez vous, peuvent faire preuve d'empathie pour leurs poussins. D'où peut-être l'expression, Jacqueline, encore une, au féminin bien sûr, être une mère poule.
Et là, c'est une belle expression.
Un
pour moi, en tout cas. Les oiseaux s'adaptent-ils dans leur cohabitation avec l'homme, qui parfois perturbe les haies?
Et oui, leur habitat, eux aussi. Ouais. Est-ce que les oiseaux ne vivent pas que dans les haies? Mais certaines espèces d'oiseaux utilisent les morceaux de plastique, par exemple, ou de coton pour construire leur habitat. Le plastique est un matériau solide, le coton apporte du confort et permet de retenir la chaleur. Selon une étude britannique publiée en 2023, au moins 176 espèces d'oiseaux construisent des nids avec des matériaux d'origine humaine. Dans les années 2010, des chercheurs mexicains, eux, ont trouvé des mégots en abondance dans des nids de roselin. Donc en fait, ce sont des oiseaux qui ressemblent à des moineaux. Ces chercheurs se sont rendus compte que la présence de ces mégots, et notamment des filtres, avec la nicotine et le goudron, pouvait avoir un effet contre les parasites comme les tiques. Ceux qui utilisent des mégots offrent donc de meilleures chances de survie à leur descendance. Et ces jeunes reproduiront ce comportement qu'ils tiennent des jeunes de leurs parents. D'autres chercheurs ont observé que les pies et les corneilles nous chambrent un peu, je dirais, en utilisant des dispositifs anti-oiseaux pour faire leur nid. Ce sont les pics en fait en métal disposés à proximité des gares, par exemple des jardins et autres lieux publics, pour empêcher les oiseaux de s'y installer. Et en fait, pour les corneilles, ces tiges de métal servent juste à construire une base solide. Le reste est empilé par-dessus hein, pour leur nid. Et les pies, elles, semblent avoir conservé l'usage théorique des bouts pointus de ces pics. Ça sert en fait de protection contre les pilleurs de nid. Et pour faire de leur nid une forteresse, elles utilisent couramment des branches de ronces, d'épines et de toutes sortes. Et dans quelques cas, parfois, vous verrez des objets pointus d'origine humaine, des aiguilles tricotées ou, en agriculture, du fil de barbelé.
La pie voleuse.
Oui, oui. Et en fait, la pie est une voleuse et elle se protège des pilleurs de nid.
On entend parfois que le nombre d'oiseaux diminue fortement. Qu'en est-il?
Eh oui, donc on va s'appuyer sur des chiffres fruits d'observations scientifiques. Donc vous entendrez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu, que 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans. Alors il faut savoir que les oiseaux des champs, en fait, ne représentent, je dirais, qu'un oiseau sur 10. Mais ça fait tout de même, au final, 25% d'oiseaux en moins au final.
Qu'un oiseau sur 10?
Aujourd'hui. Et en fait, quand vous comparez en masse, hein, ça fait des chiffres énormes, mais ça fait 800 millions d'oiseaux en moins sur 40 ans, donc ça fait plus de 20 millions d'oiseaux en moins tous les ans en Europe. C'est énorme. toutes les espèces, en fait, ne sont pas touchées de la même façon. Chez nous, en Deux-Sèvres, depuis plus de 20 ans, chaque année au printemps, des ornithologues bénévoles et professionnels suivent les populations d'oiseaux communs en appliquant un protocole strict. Un programme qui s'appelle le STOC, pour suivi temporel des oiseaux communs. Il s'agit d'un inventaire qui permet de déterminer les évolutions des populations d'oiseaux. Une analyse sur 20 ans a permis donc de démontrer que le bruant jaune, par exemple, oiseau granivore qui affectionne les milieux agricoles, a le plus disparu chez nous. 15 autres espèces sont en déclin, je dirais modéré, et 32 sont stables. Et en revanche, 17 sont en augmentation modérée et 3 en forte augmentation. Donc ce travail fournit un éclairage sur les tendances des populations d'oiseaux communs. Mais il alerte sur la situation préoccupante des espèces, elles, granivores. Par exemple, les espèces suivantes subissent des diminutions très importantes à l'échelle de notre territoire, à nous, chez nous. Le chardonneret élégant.
J'adore le chardonneret.
Et à ne pas mélanger avec le vin, bien sûr. Le chardonneret, tout court. Le chardonneret, lui,
très élégant. Très beau aussi.
Très bien aussi, oui. Il diminue, lui, alors c'est estimé à 36%. Et le Sorincini, lui, il diminue, estimé à 39%. Le Verdier d'Europe, estimé à 56% en moins. Et le bruant jaune, donc, de moins 71%. Et en fait, dans la lignée des résultats obtenus à l'échelle nationale, hein, les espèces spécialistes des milieux agricoles, comme l'alouette des champs, la buse variable, le bruant proyé ou le vanneau huppé, présentent en fait une diminution globale de 17% sur 18 ans. Les espèces généralistes, que sont le pigeon ramier, la corneille noire, le pinson des arbres, le merle noir, connaissent quant à elles une augmentation de 13%.
Ah, c'est sûr, on s'en rend compte. Pourquoi ce déclin, Ludo? Pourquoi dit-on qu'il est lié à l'agriculture? On ne tue pas les oiseaux pourtant.
Non, ben en tout cas pas directement. Mais les pressions que l'on suspecte d'avoir un impact fort sur la biodiversité en général, et sur les oiseaux donc en particulier, sont le changement climatique, avec l'augmentation des températures par exemple, la pression d'origine agricole, c'est-à-dire engrais, pesticides, mais aussi la monoculture et le manque de rotation. Et ensuite, il y a le couvert forestier et l'augmentation aussi de l'imperméabilisation des sols et l'urbanisation, très clairement. Plus précisément, si on parle pesticides et engrais, hein, qui affectent donc l'écologie des insectes, l'écologie du sol, tous ces invertébrés essentiels au développement des oiseaux. Puisque tous les oiseaux ont un stade insectivore pour nourrir leurs jeunes. Et en fait, si vous mettez trop d'insecticides, il n'y a plus d'insectes et on ne peut plus nourrir les populations.
Cercle vicieux, une fois de plus.
Exactement. Et ensuite, certains granivores peuvent aussi ingérer des semences enrobées de pesticides. En fait, c'est des traitements, nous, qu'on peut mettre. Et plus largement, l'impact des pratiques agricoles conduit, je dirais, à une simplification des parcelles, avec des parcelles plus grandes, moins de haies et moins d'habitats aussi pour se nourrir ou pour s'abriter.
Il faudrait réussir à faire plus attention dans nos pratiques pour favoriser un meilleur équilibre des espèces et éviter la disparition de certains oiseaux.
Exactement. Et en fait, tout ça, c'est encore et toujours une question d'équilibre entre nos activités et la biodiversité. L'agriculture n'est pas la seule responsable d'une modification de la biodiversité. L'urbanisation, par exemple, en est une autre cause. Mais c'est bien là la question de notre modèle agricole, en fait, hein, qui est encore en jeu. Les décisions donc politiques pour guider ce modèle agricole, qui en sera une autre, mais une prépondérante. Et les choix et les stratégies économiques des décideurs sont parfois antagonistes, en fait, très clairement, à une biodiversité, je dirais, éclatante. Surtout lorsqu'elle est presque invisible au quotidien. Donc chacun peut jouer son rôle, même vous, chez vous, avec vos haies, vos nichoirs.
Voilà, interdiction là de couper ça et de tailler ça.
Alors, depuis le 15 mars, oui. On n'a plus le droit. Alors, le monde agricole a demandé des dérogations jusqu'au 15 avril. Mais normalement, vous n'avez pas le droit de tailler vos haies du 15 mars au 30 août.
Pour les haies, c'est quand même pas compliqué.
On a le droit de tailler au pied des haies pour entretenir, notamment les clôtures électriques en paysage agricole.
Ouais, moi, je parlais des particuliers.
Oui, mais Jacqueline, finissons sur une note positive parce que tout n'est pas perdu. Nous pouvons être encore acteurs du renouveau.
Puisque,
petit à petit,
l'oiseau
refera.
Oui, bien joué, Ludo. Merci.
Et bonne journée.